Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, environ 3 milliards de dollars américains, c'est le nouveau décaissement que le conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve en faveur de la RDC pour un accord de 38 mois au titre notamment de la facilité pour la résilience et la durabilité. Plus de précisions dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi la commémoration ce jeudi du 23e anniversaire de la mort de l'ancien président de la RDC et héros national, Laurent Désiré Kabila. À cet effet, les jeunes de la ville de Beni au Nord-Kivu appellent les générations actuelles à s'inspirer de ces héros qui avaient fait de l'amour de la patrie et les réformes des institutions sont cheval des batailles. La criminalité monte en flèche dans les grandes villes de la province du Haut-Katanga, notamment à Lubumbashi, avec de nombreux cas de meurtre. La police rassure et appelle la population à la collaboration avec les services de sécurité pour faire face à cette situation. Nous en parlons avec notre invité, le commissaire provincial de la police dans les Haut-Katanga, Dieudonné Odimba. Bonjour à tous. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve un accord de 38 mois d'un montant d'environ 3 milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué parvenu ce matin à Radio Okapi, le FMI précise que 1,729 milliards de dollars seront débloqués au titre de la facilité élargie des crédits et 1,38 milliards de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité en faveur de la RDC. Cette approbation du conseil d'administration du FMI est un aboutissement de l'accord négocié par les experts des ministères des Finances et Budget sous l'égide du ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé en décembre dernier. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans son communiqué signé hier mercredi, le directeur général adjoint et président du conseil d'administration du Fonds monétaire international affirme que l'économie de la RDC est restée résiliente avec une croissance économique durable, une baisse de l'inflation et des déficits budgétaires malgré les défis importants auxquels elle est confrontée, notamment les conflits armés dans l'est du pays et une crise de santé publique liée à l'épidémie de Mpox. Monsieur Okamura souligne que le 1729 millions de dollars accordés à la RDC dans le cadre du nouvel accord à titre de la FEC permettra aux pays bénéficiaires à stimuler la croissance et créer un espace budgétaire pour les investissements prioritaires et les dépenses sociales. En ce qui concerne les 1038 millions de dollars octroyés dans le cadre du programme soutenu par la FRD, M. Okamura, chef du FMI, précise qu'avec cet argent, la RDC s'investira dans la protection de ses vastes forêts tropicales, le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles induites par les changements climatiques, ainsi que dans une meilleure prise en compte des considérations climatiques dans la gestion des investissements publics.
Michel Kifindangoy sur la radio de la paix. Entre-temps, les sociétés chinoises et les coopératives minières œuvrant au Sud Kivu s'engagent à disponibiliser des fonds pour rendre praticable la route nationale numéro 2 sur l'axe Mugogo-Walung-Mwenga. Ces compromis ressortent d'une réunion d'échange entre les acteurs miniers tenue hier à Bukavu par le ministre provincial des mines avec les parties prenantes du secteur des mines et des routes. La signature d'un protocole d'accord est intervenue ce mercredi au cabinet du ministre des tutelles à Bukavu. Les détails avec Jean Kassami.
Les débats étaient houleux avant que les acteurs réunis dans la salle Bodega tombent d'accord tard dans la soirée. Les coopératives minières, parlant aussi au nom des sociétés minières, ont accepté de collecter un fonds au profit de la réhabilitation de la route nationale numéro 2, un engagement qui plaît à la grande majorité des parties prenantes. La société civile demanderesse de la rencontre dit attendre voir les engins. Sami Jean Takimbula, vice-président du bureau.
Satisfait par rapport à cette participation à la réunion qu'a organisé le ministère des Mines sur la question de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 de Bugogo jusqu'à Kamituga. Les échanges étaient vraiment pertinents pour qu'il y ait une solution idoine, que les sociétés qui exploitent les minerais dans les territoires de Mwenga et de Walungu puissent avoir un œil en réhabilitant ces tronçons routiers à l'importance nationale.
Ladislas Muganza, notable du territoire de Mwenga.
Dès que les travaux vont commencer, il y aura des crispations et le trafic va commencer très bien.
Une séance de signature d'un protocole d'accord est convoquée ce mercredi entre le ministère provincial des mines, les sociétés civiles, les coopératives et les sociétés minières. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Non loin de là, au nord Kivu, la ville de Goma va s'y doter d'au moins 53 autres kilomètres de routes asphaltées. Les travaux ont été lancés officiellement hier par le gouverneur ad intérim. Ces travaux qui sont financés par le gouvernement provincial et quelques sociétés partenaires vont être exécutés dans deux phases pour le gouverneur. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un vaste chantier comprenant l'asphaltage et pavage des routes ainsi que d'autres projets de développement à travers la province. Un programme dont l'exécution devrait s'étendre sur un peu plus de 10 ans, dit-il. Le général-major Peter Chirimwami, dans cet extrait choisi par Bernard Denyangui.
Le premier lot va concerner l'asphaltage d'environ 27,62 km qui concerne l'avenue polyclinique, l'avenue de Kanyambongo, où nous sommes, l'avenir constituant les deuxièmes voies d'accès au niveau du palais de justice, les boucles avenir Kasavubu, Kalonji, Kanyamwanga, les boucles Kabasha, Andosho, l'avenir Kibati, l'avenir Katoi, l'avenir Jomètre, l'avenir Commandant Belge, les boucles Morgue de l'hôpital provincial, RTNC, OVG, Stade Afia, l'axe TMK, Institut Faradja, Kanisalamungu. Les deuxièmes lots, c'est l'avenue de la Plaine, axe Majengo, école primaire, Biaï, l'avenue Nyabushongo, l'axe Chongo Turunga, l'avenue Rwenzori et l'avenue Tchengerero, qui vont constituer les 53 km. Donc si nous arrivons à la fin de ce projet, nous allons totalement transformer la ville.
Laurent Désiré Kabila, un modèle d'une école politique à la jeunesse congolaise. C'est la thématique d'une journée de réflexion qui a réuni des jeunes de la ville de Beni. C'est à l'occasion de la commémoration, c'est jeudi 16 janvier du 23e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République. Pour ces jeunes, les générations actuelles et à venir doivent s'inspirer de ces héros qui avaient fait de l'amour, de la patrie et les réformes des institutions son cheval de bataille. Maître Fabrice Moulouahali, l'un des orateurs de cette activité, explique au micro de Marc Marofimbo.
Commémorer l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, c'est commémorer l'amour de la patrie. Nous devons, en tant que génération, retenir de lui le patriotisme. Il faut aimer le Congo, il faut jamais trahir le Congo. Il a mené une très longue lutte armée avec autant d'alliés que nous connaissons, mais au milieu de toutes ces alliances, il est resté le même tout en privilégiant sa vision qu'il avait pour le Congo, l'amour qu'il avait pour le Congo. Je pense c'est qu'il lui aurait même coûté sa vie, puisque il savait que les alliances, c'était pour un moment, mais qu'après, il fallait quand même continuer à gérer le Congo de manière à ce que le Congolais se retrouve au centre même de l'intérêt, enfin, de l'action publique de l'État. C'est une icône pour nous, c'est un modèle sur ces terrains-là, parce que le bout des temps qu'il a géré, il avait institué des réformes courageuses qui continuent à résonner encore dans les esprits de ceux qui avaient vécu ces moments-là.
On enchaîne avec la sécurité dans la région des Lubero, toujours au nord Kivu, où une trentaine de civils ont été tués ce mercredi à Muhangi, à une centaine de kilomètres de Lubero centre. La société civile locale parle d'un bilan encore provisoire. Une psychose règne dans cette région où un déplacement massif de la population est signalé depuis la soirée de mercredi. Marc Marofimo pour des précisions.
Des sources locales précisent que c'est aux environs de 16 heures locales que les rebelles des ADF ont attaqué la localité de Muhangi. Ils ont tué 32 civils à la machette. Parmi eux, le chef du groupement de Mulengia qui a été tué à Mapanga, un village voisin, alors qu'il revenait d'une mission au groupement de Mulengia. Le bilan est encore provisoire, mais on déplore aussi plusieurs blessés et de nombreuses personnes portées disparues à Makoko, Masakoti et Mambangu, ajoutent nos sources. Pris de panique, les habitants des autres localités situées à l'ouest du groupement de Mulengia ont commencé à vider leur milieu pour trouver refuge à Vusamba, Musienene, Musimba, Kiamboho, Kimbulu et dans la ville de Butembo. Pour sa part, le comité local de la protection communautaire en chefferie de Baswara demande aux autorités militaires de prendre des mesures idoines pour traquer ces ADF dans cette région et d'accorder la même attention à la menace qu'ils constituent aux rebelles du MV3. Contacter les porte-parole militaires dans la région confirme cette information sans plus de détails. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et en Ituri, au moins 600 miliciens du groupe armé Zaïre ont adhéré officiellement mercredi au processus de paix. À cette occasion, ils ont remis 85 armes et des munitions aux autorités militaires. La cérémonie s'est déroulée à Mabanga, dans la chefferie de Mambisa, dans les territoires de Djougou, en présence du commandant de la 32e région militaire et la MONUSCO qui facilite le processus. C'est ce que nous dit Sadiki Aboubakar qui était sur place dans ses reportages.
Ils sont environ 600 combattants regroupés au terrain de foot de Mabanga. Quelques-uns sont armés, mais presque tous portent des effets militaires. Sur place, ils ont remis 85 armes avec des munitions. Jean-Marie Ngadjolet, leur porte-parole, appelle l'armée à renforcer sa présence dans le territoire de Djougou afin de permettre à tous les combattants de la milice d'autodéfense Zaïre de dégarnir leur position et déposer les armées restantes. Il appelle à la même occasion les autres groupes armés à leur emboîter le pas en vue de restaurer la paix en Ituri. Le commandant de la 32e région militaire, le général Urbain Tambouka Bamé, félicite l'engagement des leaders de cette milice pour adhérer au processus de paix.
Le commandant de ces combattants a pris ses responsabilités malgré les attaques de certains membres de sa communauté. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour exhorter différents leaders des communautés de saisir ces moments pour les pardons. La réconciliation, en fait d'amener la province à une paix durable.
Signalons que les équipes de désarmement mobile du PDDRCS et les autres partenaires ont aussitôt démarré le processus d'identification et désarmement de tous ces combattants venus des différentes zones de Djougou. Des retours de Mabanga, Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Merci à vous, Sadiki Aboubakar, pour ce reportage. Nous avons encore besoin de l'appui de la MONUSCO aux côtés de nos forces armées pour le rétablissement de la paix en Ituri au cours de cette année 2025. C'est ce que déclare le gouverneur de cette province dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi. Selon le général Johnny Luboya Kachama, l'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu est consécutive au soutien logistique, renseignement et approche non militaire qu'apporte la mission onusienne aux autorités militaires pour la protection des civils. Il reconnaît cependant que beaucoup d'efforts restent à fournir pour la pacification totale de cette province, ce qui nécessite la contribution de tous. Le lieutenant général Johnny Luboya Kachama est au micro de Martial Kizabiamongo.
La MONUSCO renforce les capacités de nos militaires sur le plan opérationnel. Nous formons les commandos et ça c'est déjà beaucoup. Et donc il en faut encore davantage parce que ici nous sommes en train de mener une guerre atypique. Et donc il faut plus de forces qui soient spécialisées, n'est-ce pas, avec plus de professionnalisme. Et donc je demande à la MONUSCO de continuer à nous aider dans la formation parce que aujourd'hui il y a toujours ces mauvaises personnes-là qui n'ont pas arrêté. Qui continue. Vous connaissez l'histoire de Thomas Lubanga, vous connaissez l'histoire de Kawa, vous connaissez l'histoire maintenant avec leur association de criminels, des vidéos que vous suivez, les Unierto et toute leur bande là. Des Tungul aussi qui sont décidés à attaquer la province de l'Ituri. Il y a des choses aussi que les Ituriens doivent faire. Surtout aussi à ces politiciens qui continuent à manipuler. Cela appartient aussi aux députés. Ces députés-là qui doivent parler à leurs élus, qu'ils parlent pour qu'il y ait la réconciliation et le pardon. À quoi ils servent les députés?
C'était le gouverneur de la province de l'Ituri. Recourir aux valeurs sociologiques et spirituelles des Bumuntu pour construire la paix durable et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, c'est l'une des idées sur lesquelles repose la feuille de route du pacte social lancée ce mercredi à Kinshasa. À travers cette initiative, les responsables de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et ceux de l'Église du Christ au Congo ECC disent vouloir faire de l'année 2025 une année de paix et de bien vivre ensemble en RDC. Renéline Tibonera a parcouru pour nous cette feuille de route et nous propose ses condensés.
Cet appel intervient dans une période particulière marquée par la persistance de la souffrance liée aux nombreux morts et déplacements de la population dans la région. Pour le responsable de ces deux structures, il est incompréhensible que de tels événements puissent se poursuivre dans une zone connue pour son sens élevé de valeurs sociologiques et spirituelles du Bumuntu. Alors que la tension monte dans la région, Eric Senga et Donatien Cholet, respectivement porte-parole de l'ECC et secrétaire général de la CENCO, décident de briser le silence face aux conflits armés et politiques et les conséquences qui en découlent. Ils justifient l'émission de ces pactes sociaux par les soucis de permettre à l'Afrique de s'affranchir des conflits politiques et armés en mettant en avant les notions de fraternité entre le peuple. Ces deux organisations proposent d'aborder les problèmes selon le modèle de l'arbre à palabre en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes régionaux.
Santé à présent, 65 décès de Mpox enregistrés en 2024 au Sud Kivu, 770 cas suspects à 6 jours. La province reste l'épicentre de la variole des singes en RDC. La zone de santé de Mitimurisa vient en tête, suivie de celle de Nyantende. Le ministère provincial de la Santé dit poursuivre les efforts de la prise en charge des malades pour revoir la tendance à la baisse en 2025. Docteur Claude Bahiziré, chargé de communication à la division provinciale de la Santé, DPS Sud Kivu, nous en dit plus au micro de Rachel Kessembango.
Pour ce qui est de l'année 2024, nous avons clôturé avec plus de 19 000 cas, surtout 19 786 cas. On a perdu au moins 65 personnes. Par rapport toujours à 2024, il y a eu quand même des guéris, ce qui est quand même encourageant, plus de 18 500 guéris. Il y a quand même de l'espoir, parce que quand vous voyez les zones de santé affectées, c'est autour de 33 sur 34 zones de santé qui comptent la province, mais presque dans toutes les zones de santé, la courbe a changé d'allure, il y a quand même une diminution du nombre de malades, mais dans l'ensemble, avec le cas de malades où nous faisons des examens de laboratoire, en tout cas, l'impox est confirmé et on a fini avec 75% de positivité par rapport au nombre de cas où on a fait l'examen de laboratoire. Il y a quand même diminution et nous espérons que cette diminution va continuer et on peut même gérer la situation pour l'année 2025.
Actualité internationale.
Nous sommes en Guinée, les Forces Vives, plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, appelle ses membres à se retirer immédiatement de toutes les institutions de la transition.
L'invité.
La criminalité urbaine prend de plus en plus de l'ampleur dans les grandes villes de la province du Haut-Katanga. De nombreux corps sans vie sont ramassés ci et là et la population vit la psychose. La société civile s'interroge sur les mesures de sécurité prises par les autorités pour y faire face. La police, pour sa part, sollicite la collaboration de la population et rassure que tout est mis en œuvre pour mettre hors d'état de nuire les malfrats. Pour en parler, le commissaire provincial de la police dans les Haut-Katanga est notre invité. Le général Dieudonné Odimba s'entretient avec Jean Gando.
Mon général Dieudonné Odimba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce qui peut bien justifier le regain de la criminalité à Lubumbashi ces derniers jours?
Vous voyez, pendant les périodes de festivités, chacun cherche comment nourrir sa famille, avoir quelque chose pour les festivités. Et aussi, tous les creusers, ils ont abandonné les sites miniers pour venir en ville parce que la plupart des puits sont remplis d'eau. Et ça, c'est un problème. Pour la ville, nous faisons tout pour arrêter les criminels. Nous les arrêtons. Nous les présentons à l'autorité, à la justice de faire sa part. Nous ciblons des quartiers pour boucler. Nous bouclons, nous arrêtons les gens avec de preuves palpables. Et nous transmettons à qui des droits. Mais quitte à la justice de faire son travail, à la population de collaborer avec la police. Le policier n'est pas un magicien. Le policier travaille. Le policier fait la patrouille, les tournées, diurne, la patrouille diurne comme nocturne chaque jour. Et nous procédons aux arrestations chaque jour. Nous présentons ces criminels auprès des autorités. Mais chacun a son travail. Nous limitons pour les arrestations, nous établissons les procès-verbaux, nous envoyons à qui des droits. Mais qui est aussi à la justice de faire son travail? Les policiers arrêtent, les policiers n'est pas un juge. C'est ça le problème. Je demande à la population d'être calme. La police travaille jour et nuit.
En l'espace d'une semaine, c'est plus d'une dizaine de corps qui ont été ramassés, tant à Likasi qu'à Lubumbashi. Ça commence à créer la psychose dans les chefs de la population.
Ce n'est pas seulement le problème d'insécurité. Nous sommes dans une période de pluie. Il y a des gens qui sont tombés dans des puits. D'ailleurs, j'étais en réunion avec tous les chefs de quartier et les maires de la ville. Nous avons parlé sur ces problèmes-là. Il y a d'autres qui ont été électrocutés. Vous voyez, là où les câbles sont nés, le monsieur passe, il y a de l'eau qui coule, alors l'homme est électrocuté, on ramasse le corps, on dit qu'il a été tué par l'insécurité. Non.
Avec les traces de violence sur les corps?
Avec les traces de violence, parfois, mais ce n'est pas tous les corps.
Que dites-vous de ceux qui pensent que par moment, il y a certains patrouilleurs qui se mécomportent aussi, qui seraient parmi ceux qui insécurisent la ville?
La dernière parade du mois de décembre avant la fête, j'avais présenté au moins 6 policiers qui se comportent mal lors de la patrouille. Ils ont été arrêtés, ils sont mis à la disposition de l'autorité.
Et aux patrouilleurs, qu'est-ce que vous dites?
J'ai dit aux patrouilleurs, on dit la présence d'un policier sur la voie publique est le commencement de la sagesse. Donc, nous les envoyons pour sécuriser la population et non pas pour insécuriser la population et tracasser la population.
Que diriez-vous donc à ceux qui vivent avec les criminels et qui ne veulent pas peut-être collaborer avec la police simplement parce qu'ils ont peur peut-être que ça pourra se retourner contre eux?
Nous demandons à la population de nous aider, de pointer
du doigt là où les criminels se cachent. Parce que les criminels ne vivent pas à l'air, au ciel. Les criminels vivent avec la population à la cité. Que les chefs des quartiers dénoncent, que la population dénonce là où les criminels se cachent. Comme ça, la police saura faire son travail.
Quelle garantie donnez-vous à ceux-là qui viendront dénoncer, qui ne seront pas exposés?
Nous allons les sécuriser et ils ne seront pas exposés à des problèmes.
À quoi servent les différentes barrières qu'on trouve sur la route la nuit? Et ça devient un endroit où se font les tracasseries et les extorsions.
Les barrières sont tenues par les FARDC pour les problèmes sécuritaires que vous connaissez dans les Haut-Katanga. Le commandant 22e région militaire a mis pour contrôler un peu les véhicules qui entrent la nuit, qui sortent pour filtrer ceux qui entrent. Parce que nous craignons la surprise.
En général, vous avez été pour la première fois à Mitouaba. Alors, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut dans ce territoire?
Mitouaba, en soi, n'a pas d'insécurité. L'insécurité vient d'ailleurs, de Malembankoulou, de Manom. Il y a le déparc, les Bakata Katanga. Ils se cachent dans des déparcs. Ils viennent seulement pour chercher à manger, pour tracasser la population. Ils sont devenus des coupeurs de route. Les Maïmaï sont basés dans des territoires de Malembankoulou et Manom. À Mitouaba, il n'y a pas l'insécurité. J'ai été moi-même à Mitouaba. Je suis le premier général de la police à fouler le pied dans Mitouaba. Je suis allé à Pouetou 3 fois. Je ne dors pas pour les problèmes de sécurité. J'ai passé les festivités à Mitouaba.
Mon général, je donne au Timba, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Notre invité, le commissaire provincial de la police d'Ale Haut-Katanga, répondait aux questions de Jean Gandou. C'est la fin de ce journal coordonné par Jordan Blaise Shindani Kambala sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Polydor Basunga a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci.